Comment ça marche le journalisme ?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot ?
Il est 9h39, vous êtes sur France Inter et c'est l'Instant M qui recommence.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Décembre 1989, la chute du régime communiste en Roumanie. Le dictateur Nicolae Ceaușescu et son épouse fusillés comme des chiens après un simulacre de procès. Nous, en France, on a regardé tout ça à la télé. En fait, depuis la chute du mur de Berlin, vécue en direct dans les JT, elle était restée allumée, la télé. Parce que la révolution roumaine s'est faite sous l'œil des caméras. Parce qu'elle a été dirigée depuis un studio télé. Parce qu'elle a été pensée comme un happening permanent auquel on crut et qu'ont relayé les médias du monde entier. Le clou, l'effroyable découverte, un charnier, 4000 corps mutilés. Tout cela était entièrement bidon. Comment les journalistes ont-ils pu ainsi se faire avoir ? Cette semaine, les 30 ans de la révolution roumaine, anniversaire d'une manipulation médiatique quand la puissance de l'image fait des ravages.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Voilà, de 20h20 à 21h environ, nous rediffuserons les moments essentiels, je vous l'ai dit tout à l'heure, du procès historique du couple Ceaușescu, pratiquement du jamais vu dans l'histoire de la télévision. Et pourtant, Dieu sait que l'on a attendu hier soir pour découvrir les premières images qui ont été minutieusement remontées, car le speaker les a annoncées, puis on a vu de l'opéra, puis une nouvelle annonce, puis encore le speaker, puis de la musique de chambre, et enfin 3 heures d'attente pour un document qui a été soigneusement manipulé, des bizarreries que vous remonte tout de suite, par exemple, Michel Dumont.
Que de bizarreries, en effet, vous avez peut-être reconnu la voix de Guillaume Durand à l'époque sur la 5, c'était la chaîne de Berlusconi. J'ai le plaisir de recevoir Marc Semo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint des pages débat au Monde. À l'époque, vous étiez journaliste à Libération. J'aimerais vous faire entendre un autre son très rapidement parce que on va revivre les archives de cette période. Mais d'abord, on va raconter le début des événements. La mise sous surveillance d'un pasteur calviniste d'origine hongroise à Timișoara. Timișoara, c'est une ville ouvrière à l'ouest de la Roumanie. Le 15 décembre, il y a d'abord un petit rassemblement devant la maison de ce pasteur. Le 20, il y a une grève générale, une manif de plus de 100 000 personnes qui se déclenche dans la rue. Le 21 décembre, Nicolae Ceaușescu s'adresse aux Roumains par le biais de la télé, de la radio publique.
Nous diffusons le discours prononcé ce soir par le secrétaire général du Parti communiste roumain et président de la République socialiste de Roumanie, Nicolae Ceaușescu, au poste roumain de radio et de télévision. La situation n'est pas due aux forces de l'ordre et aux unités militaires qui, 2 jours durant, ont fait preuve de la plus large patience et tolérance vis-à-vis des actions des éléments terroristes fascistes de Timișoara.
Vous allez comprendre, tout ça est encore un peu confus, mais vous allez comprendre. Ça, c'était Radio Bucarest, c'était le 21 décembre 1989, c'était il y a 30 ans. Le même jour, Marc Semo, on déterre des cadavres à Timișoara. Vous, vous arrivez le 22. Vous êtes accompagné de Patrice Claude, journaliste au Monde à l'époque. Je rappelle que vous, vous étiez à Libération et d'un journaliste de l'AFP. Vous parlez roumain ?
Oui,
vous...
je parle roumain, mes parents sont roumains. Enfin, vous... je le parle peu, mais je le comprends bien.
Voilà. Et donc, vous arrivez à Timișoara au moment de cette séquence d'horreur. Mais d'horreur absolue.
Alors... la séquence d'horreur avait commencé avant.
Oui. Hein,
parce que Timișoara, ça a été le coup d'envoi de la révolution roumaine, avec ses manifestations contre l'arrestation de ce pasteur Laszlo Tökes. Donc là, c'est le démarrage des petites manifestations. Elles grossissent, elles s'amplifient. L'armée commence à réprimer. Il y a des morts. Et surtout, à l'extérieur, relayé par les agences de presse hongroises, qui venaient de découvrir plus ou moins la liberté, donc qui déjà n'était plus communiste, yougoslave, il y a la rumeur d'un véritable bain de sang à Timișoara. Alors, il faut quand même tout de suite dire une chose. Il y a eu des morts à Timișoara, beaucoup de morts, plus de 100 morts à Timișoara. Hein, c'est quand même le moment le plus sanglant de la révolution roumaine.
Là, on ne parle pas du tout de la découverte de ce charnier. Voilà, les morts dont vous parlez, c'est la répression par les forces de l'ordre, des manifestations qui sont dans la rue.
Plus de 100 morts, ce qui est énorme, sur un millier en tout de la révolution roumaine, en rappelant que la révolution roumaine a été la seule révolution sanglante de ces révolutions qui ont mis à bas les régimes communistes de l'Europe de l'Est. Et au même moment, donc quand le 22 décembre, le régime s'effondre, donc Nicolae Ceaușescu et Eliza Ceaușescu s'enfuient en hélicoptère, ils seront arrêtés quelques jours après et donc jugés dans un simulacre de procès puis exécutés. Le régime s'effondre et les journalistes, dont moi, qui attendions à la frontière yougoslavo-roumaine, hein, Timișoara, c'est très près de Belgrade, c'est à 100 km de Belgrade. Ouais. Donc on avait quelques vagues témoignages et tout. Donc on entendait parler de l'ampleur de la répression, de l'armée qui tirait la mitrailleuse lourde sur la foule, etc. Donc on fonce, on arrive dans la ville. Alors quand même, d'abord, on a été très surpris parce que cette ville, bon, vu ce qu'on entendait relayé par les agences, relayé par les radios, ces quelques témoignages, on s'attendait à voir une ville en ruine. Bon, on voit une ville sonner. Ouais. Quoi? Une espèce de fête triste, parce qu'à la fois les gens étaient soulagés de l'effondrement du régime, mais ouais, il y avait eu quand même des journées de répression, mais c'était pas une ville en ruine. On arrive à la mairie, on nous emmène à la mairie, on met sur le balcon, donc je parle quelques mots de roumain, j'apporte le salut du peuple de France à la jeune révolution roumaine, ouais, je suis très applaudi. Voilà. Et à ce moment-là, on me dit, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de morts, il y en a eu tellement, etc. Bon, je dis combien, on me dit, ah, tant. Bon, alors, et un jeune ingénieur m'emmène au cimetière avec mes collègues et on voit 15 corps, 15 vieux corps. Alors, bon, à l'époque, toute la génération de journalistes, dont la mienne, on n'avait pas vraiment l'expérience de ce genre de choses. Hein, la Yougoslavie après.
15 corps dans un cimetière.
Qui n'était pas très frais.
On va reprendre ce récit avec vous, Marc Sémo, voilà, parce qu'il faut savoir.
C'est à ce moment-là
voilà,
que les caméras, ouais, de télévision cadrent, serrées, ces 5 morts. Et si vous mettez ensemble ces images serrées des 15 corps, hein, dont une femme avec, ouais, son bébé sur le ventre, et de l'autre, les agences les plus sérieuses, l'AFP, Reuters, qui parlent de milliers de morts et qui disent un charnier a été découvert avec 4630 corps. Alors, ce chiffre précis de
4632 cadavres. Les agences est-allemandes, hongroises, yougoslaves, la TASS, hein, 4632 cadavres. Le chiffre est matraqué. Va être repris par l'AFP.
Absolument.
Il va être repris par France Inter. Alors, puis par les télévisions, on va entendre l'extrait quand même, parce que c'est quand même l'histoire d'un fail, comme on dit aujourd'hui, médiatique, d'une erreur magistrale dans laquelle tout le monde s'est engouffré. TF1, Antenne 2, puis à nouveau TF1.
Et puis cette dépêche atroce aussi, selon certains témoins, on aurait découvert un charnier avec 5000 cadavres dans la ville de Timișoara.
Des corps mutilés, atrocement torturés, victimes de la répression samedi dernier. C'est la télévision yougoslave de Belgrade qui les a diffusés.
On fait état de 4630 corps qui auraient été retrouvés dans une fosse commune. 4630 corps.
Des témoins oculaires ont révélé que les corps avaient été transportés dans des camions poubelles. Les conducteurs auraient été ensuite éliminés par la police, soucieuse de ne laisser aucun témoin.
Voilà la machine à fantasmes qui bat son plein à la télévision. Alors, et c'est la surenchère de l'horreur. Écoutez notre confrère Henri Charpentier sur France Inter quelques minutes avant.
En province, des témoignages souvent atroces permettent aujourd'hui de mieux comprendre l'ampleur de la répression à Timișoara, la ville d'où est véritablement née l'insurrection populaire face au régime de celui qui aimait se faire appeler le génie des Carpates ou encore la pensée du Danube. Le journaliste soviétique de l'agence TASS révèle que 45 enfants qui sortaient d'un spectacle de marionnettes ont été froidement abattus par les tirs des forces de sécurité locales.
Oui, il y a le détail, il y a le spectacle de marionnettes. Libération, votre journal, Marc Sémo, titrera La Boucherie.
Alors, la boucherie, elle a été réelle, mais donc elle n'était pas de cette ampleur. Et surtout, il n'y avait pas ce charnier. Ce qu'on a appris après, parce qu'à l'époque, personne n'avait l'expérience de la guerre en Europe, c'est que exhumer un charnier et des corps, ça prend des semaines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en une heure, juste après l'effondrement du régime, découvrir 4632 corps. Mmh. Voilà. Mais il y avait la machine à fantasmes. Et pourquoi la machine à fantasmes?
Pourquoi, oui.
C'est là qu'il faut voir. C'était les thèses du grand historien Marc Bloch à propos de la rumeur, qui, oui, disait que la rumeur est un objet d'histoire. Mm-hmm. Parce que la rumeur traduit les fantasmes, les désirs inconscients, les peurs. Mm-hmm. Bon, le régime de Ceaușescu était perçu comme le régime sanguinaire, un espèce de Dracula des Carpates. Et donc personne ne pouvait imaginer que ce régime tomberait autrement que dans un bain de sang. La réalité était plus compliquée. Ce régime était immonde, ignoble, répressif, mais c'est un régime profondément lâche. Qui, en général, les dissidents qui étaient un peu trop, dès qu'ils étaient connus et un peu trop bruyants, on les expulsait, mm-hmm, on ne les tuait pas. Mais il y avait cette machine à fantasmes. Donc il était évident qu'à Timișoara, il ne pouvait y avoir qu'un bain de sang. Et dans les jours précédents, il y avait eu ce matraquage des agences de l'Est dont vous, oui, parliez tout à l'heure. pourquoi. Alors c'est là-dessus qu'il y a une hypothèse aussi sur la manipulation. C'est-à-dire que l'on a à ce point amplifié les agences donc des pays de l'Est, et notamment la TASS
russe. On pense que le KGB était à l'œuvre.
Voilà, pour inciter le reste de la Roumanie à se soulever. Honnêtement, cette thèse ne m'a jamais trop convaincu, ne serait-ce que parce que parler d'une telle répression aurait plutôt un effet dissuasif sur le reste du pays.
Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il y a encore beaucoup d'hypothèses et il n'y a pas encore de réponse.
Il n'y a pas encore de réponse
à tous ces mystères.
Et donc je pense que ce sont plus des fantasmes, justement.
Marc Semaux, ce qui s'est passé à la rédaction de Libération, Serge Julie, patron emblématique de Libération, racontera beaucoup plus tard dans son dictionnaire amoureux du journalisme que c'est resté un traumatisme. Vous envoyez votre papier depuis la Roumanie. Un papier qui n'est pas centré sur le charnier et un papier relativement mesuré. Je résume tel que Serge Julie l'a résumé lui-même. Votre rédaction en chef va faire des choses qui sont totalement proscrites dans l'exercice du journalisme et de ses règles. Va mélanger une dépêche AFP sans votre consentement à votre papier. Et puis ensuite va récupérer un ou deux témoignages entendus à la télévision. Des témoins oculaires interviewés par des confrères de la télévision, va récupérer ces témoignages et va les fondre dans votre papier. Vous, vous découvrez le résultat sur place, le lendemain, vous êtes encore en Roumanie.
Pas le lendemain, une semaine après.
Une semaine après, le journal vous arrive.
Oui, absolument. Bon, quand je suis arrivé à Bucarest. Alors, à la décharge de ma rédaction, j'envoie mon papier, j'ai réussi à le dicter assez difficilement.
Oui.
Bon roumain, j'ai donné quelques cartouches de cigarettes pour arriver à avoir une ligne. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, donc il fallait obtenir des lignes. Mais ensuite, il y a eu une attaque de gens de la sécurité, on ne sait pas très bien, sur le central des téléphones, ce qui fait que Timișoara est coupé du monde. Et au même moment, arrive à Paris toutes ces images, plus les agences. Donc, qu'est-ce que fait le rédacteur ?
Donc, Libération ne peut pas vous joindre.
Libération ne peut pas me joindre, moi je ne peux pas les joindre. Et mon rédacteur en chef de l'époque, Dominique Pouchin, qui avait l'expérience du Liban, ça a été son excuse, en disant, voilà, moi j'ai été à côté de Sabra et Chatila, et pendant 2 jours, où il y a eu les terribles massacres menés par les milices chrétiennes, pendant 2 jours, on ne savait pas qu'il y a eu ces massacres. Donc, moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé, eh ben voilà, j'ai repris ton papier.
J'ai complété.
Voilà. Alors, Le Monde, beaucoup plus sérieux, pour ça que j'y suis maintenant, au contraire, a gardé le papier de l'envoyé spécial du Monde et a fait un chapeau avec les agences. À Libération, eh ben on a mis au début de mon papier ce qu'il y avait dans les agences. Donc, globalement, je décrivais comment je pataugeais au milieu des 5000 corps.
Des 5000 corps que vous-même n'avez évidemment jamais vu. Voilà, il faut préciser que Serge Julie vous a renvoyé à Timișoara 3 mois après, vous et votre confrère Sorge Chalandon.
Pour refaire une enquête qu'on a publiée sur 8 pages. Que s'est-il réellement passé à Timișoara? Parce que, effectivement, pour le journal, c'était un peu une honte.
Et d'ailleurs, un édito, une autocritique de la part de Libération
de Pouchin,
a accompagné votre enquête, qui à l'époque avait fait la une, La Vérité, elle était titrée La Vérité, et cette autocritique, c'était pas un exercice très familier, on est beaucoup plus familier aujourd'hui des autocritiques journalistiques.
Absolument, c'était pas un exercice familier, mais c'était nécessaire parce que Timișoara était devenu un peu l'archétype même de ce comment les médias manipulent l'information, y compris contre leur envoyé spécial sur place, qui lui raconte les choses telles qu'ils sont. Alors c'était un peu ma vengeance parce que, bon, évidemment, une fois que j'ai vu ça, je me suis posé la question, est-ce que je démissionne pas?
Ouais,
bon, finalement, j'ai pas démissionné, mais j'ai fait jouer le buzz.
Vous avez raconté partout ce qui vous est arrivé.
Voilà. Donc assez rapidement, l'histoire a pris de l'ampleur et voilà.
Alors il y a l'affaire de Timișoara, mais il y a les soulèvements à Bucarest, il y a la chute du régime, il y a le procès de Nicolae Ceaușescu, de son épouse, il y a leur exécution. Tout ça s'est passé en direct à la télévision. À partir du 22 décembre, la chaîne La 5, je l'ai dit, lancée par Berlusconi en France, se met à relayer la télévision roumaine en direct, sans différé, sans recul, prenant pour argent comptant les images qui en parviennent. Une insurrection, en fait, filmée sur le vif et regardée partout en Europe, comme ça, en direct. Vous allez entendre des extraits qui vont sans doute vous rappeler des souvenirs.
Vous êtes en direct, vous êtes informé, vous êtes sur la 5, les événements sont considérables. Adrien Pop est avec nous, direct image, immédiatement, avec la place. Nous sommes où là?
C'est le balcon de Ceaușescu, c'est très émouvant. De ces balcons-là que vous le voyez, il a parlé il y a 2 jours, je crois. C'est de là qu'il a scandé tous ces bêtises, toutes ces énormités. On fait appel...
Ah, voilà, la télévision, là c'est le centre.
le happening révolutionnaire cathodique, la puissance de ce flux d'images jamais vu. On n'avait jamais vu l'histoire se faire ainsi en direct. Le Monde a titré l'histoire en direct. Et tout ça, c'était la télévision, c'était dans nos salons.
Oui. Alors, les images de la télévision montraient assez peu l'insurrection. Elles montraient le nouveau pouvoir qui est en train de naître. Mmh. Ce qui a été le premier, la première force politique qui est née de la Révolution, le Front de Salut National, mmh. avec Iliescu, Ion Iliescu, ben, voilà, il est né en direct à la télé. Alors, c'était qui? Alors, il y a eu beaucoup de fantasmes après sur la Révolution roumaine. Est-ce que c'est un coup d'État, une révolution, etc. Bon, ben, de fait, toutes les révolutions sont aussi des coups d'État. Et là, il y avait effectivement...
Donc c'était des anciens hommes de confiance de Ceausescu.
Non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, disons, les trois grands personnages de la révolution roumaine, au-delà de l'armée, du général, du ministre de la Défense, qui bascule au dernier moment, au début, il avait soi-disant une jambe cassée, ce qui lui a permis de rester un peu en dehors de la répression. Enfin, voilà. Mais les trois protagonistes, c'est Ion Iliescu, qui était un ami de Gorbatchev, depuis longtemps. Tout le monde savait, qu'on commençait les premiers effondrements dans du système communiste à l'Est, que c'était lui le successeur. Et en même temps, le régime roumain de Ceausescu avait tellement peur des Russes qu'ils n'ont pas osé le liquider. Le deuxième personnage, qui est encore plus fondamental, qui était un peu le véritable cerveau de l'histoire, c'est Silviu Brucan, qui était un jeune communiste.
Ambassadeur.
Un ancien ambassadeur, qui était un homme très puissant, très brillant, qui, lui, s'était dressé publiquement contre Ceausescu 8 mois avant dans un comité central, qui avait été chassé du parti, chassé de son logement et tout, mais il n'a pas été arrêté. Il avait même pu faire une tournée en Europe. Et lui et Ion Iliescu. Et puis le troisième personnage, c'est Petre Roman. Comme disait Silviu Brucan, c'était le fils d'un ami des Brigades Internationales, un bon communiste et qui présente bien, ce qui était Petre Roman, brillant, jeune, qui avait étudié en France. Et ça a été les trois personnages. Donc Ion Iliescu, qui a été le futur président, Petre Roman, qui a été le futur premier ministre, et Silviu Brucan, un peu...
Le mentor, avec l'idée que ce média de masse, ce média chaud qu'est la télévision, sera le pivot central de cette révolution, de son aura et de son
ampleur. Ce qui n'était pas idiot, parce que la télévision, c'était le moyen de aller partout dans le pays, de montrer la réalité que ce régime était en train de s'effondrer. Parce que la peur qu'avait tout le monde, et a raison, c'était que des bouts du régime résistent, que ce soit une vraie guerre civile, qui ait vraiment beaucoup de morts. Alors ensuite, ça a été une confusion totale à la roumaine, plus personne ne savait qui tirait sur qui et pourquoi.
D'où encore le fait... aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui des enquêtes en cours.
Ce qui est fascinant,
il y a eu plus de 1000 morts à Bucarest.
De 1000 morts en tout, dont 100 à Timișoara, qui était le maximum. Mais aujourd'hui, Ion Iliescu est jugé, le procès doit commencer pour crime contre l'humanité, parce qu'on l'accuse justement d'avoir toléré ces espèces de mouvements de confusion, etc. Et cette histoire de la révolution roumaine, d'ailleurs, n'est toujours pas écrite.
Non.
On ne sait pas. C'est exactement encore ce qui s'est passé.
Mais
avec cet effet du direct, tout le pays sait ce qu'il se passe. Et c'est la raison pour laquelle...
Et en France, Marc Sémaux, France.
C'est la raison pour laquelle le procès de Ceausescu, ces images que tout le monde a vues le jour de Noël, ont été diffusées à la télévision, parce que ces têtes de la révolution roumaine savaient qu'il fallait montrer à tout le pays que Ceausescu n'était plus, que Ceausescu avait été arrêté et que Ceausescu et sa femme, qui est encore pire que lui, avaient été abattus. Qui était, dans leur logique à eux, le moyen...
Sachant que ces exécutions n'ont pas été diffusées en direct, Marc Sémaux. Ils ont été diffusées quelques jours après.
Quelques heures après.
C'est vrai, nous on a retrouvé des archives qui arrivent quelques jours après.
Mais pour montrer, justement, à tout le monde que c'était bien fini parce que leur peur était qu'il y ait des résistances dans le pays.
C'est ça. Et les télévisions françaises s'écharpent, littéralement. Il y aura une brouille historique entre TF1, Antenne 2 et FR3, le privé accusant le public d'avoir été favorisé par le gouvernement qui par ailleurs affrétait des moyens, soit militaires, soit humanitaires sur place. Et puis, c'est resté quand même l'emblème, l'histoire, c'est resté Guillaume Durand et la 5. Comme justement cette espèce de surenchère, de priorité au direct, de breaking news, on n'était pas habitué à l'époque aux chaînes d'info.
De fait, la révolution roumaine, ça a été... cette première grande expérience du direct, que l'on verra juste après.
Avec la guerre du Golfe.
Problèmes des dérives du direct. C'est-à-dire, quand vous êtes en plateau, pour faire des directs sans arrêt, d'abord, vous ne pouvez pas aller vérifier beaucoup de choses, même si vous avez une équipe qui vous aide. Et surtout, jamais, quand vous êtes en direct en plateau et qu'on vous dit quelque chose qui vous prend par surprise, vous ne pouvez dire, jamais vous ne l'avez vu à la télévision, un journaliste dire « je ne sais pas ». Donc on est obligé de surenchérir. Donc on vous apporte une dépêche disant il y a 5000 morts. Et oui, effectivement, il y a 5000 morts qui ont été trouvés à Timișoara, etc., etc., etc.
Mille merci, Marc Semo, d'être venu nous raconter cette histoire qui date d'il y a pile 30 ans, anniversaire de la révolution roumaine, anniversaire de cette catastrophe médiatique contagieuse, puisque toutes les télévisions et nombre de médias ont été victimes de cette inflammation. Mille merci.
Merci.
Je rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes journaliste au Monde.